Europe 1.
Punchline, Laurence Ferrari.
Et dans Punchline, nous sommes évidemment en direct avec Valérie Pécresse. Bonsoir Valérie Pécresse.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous, candidate à l'élection présidentielle. Bruno Jeudy est là de Paris Match.
Bonsoir
Bruno. C'est le grand oral de Punchline. Oui, pardon, je vous ai un peu coupé la parole. Bonsoir Bruno. On lance cette nouvelle formule en recevant les candidats à l'élection présidentielle. Merci d'être la première à avoir répondu présente, Madame Pécresse. L'actualité, c'est d'abord ces deux enseignants qui ont été menacés de mort à Marseille. Ils sont placés sous protection, une enquête est en cours, ils ont reçu plusieurs courriers extrêmement menaçants, reçu une photo de Samuel Paty. Aujourd'hui, plus personne n'est à l'abri de ce type de menace, que l'on soit professeur ou enseignant. C'est un véritable problème pour vous ?
C'est un véritable problème. Et vous savez, j'ai passé mon samedi dans les villes qui ont été marquées dans leur chair par l'assassinat barbare de Samuel Paty, Erani, Conflans-Sainte-Honorine, avec des témoignages bouleversants d'enseignants. Une enseignante de maternelle du Val d'Oise qui m'a dit que dès la maternelle aujourd'hui, elle se faisait insulter par des élèves qui ont à peine 3 ou 4 ans. Donc je crois que... Et puis évidemment, ils m'ont parlé aussi du problème qu'ils ont avec les parents qui aujourd'hui ne sont pas toujours en soutien des enseignants. Donc il y a un très fort malaise aujourd'hui de nos enseignants qui vont parfois enseigner avec la peur au ventre et qui ont besoin de sentir le soutien indéfectible de toute la nation derrière eux. Ça va des élèves, bien sûr, mais les parents, et puis nous, les citoyens, et nous, les politiques.
Et ce n'est pas le cas aujourd'hui ?
Bruno Jeudy.
Le président avait rendu un hommage, on se souvient, assez vibrant et évidemment bienvenu pour l'enseignant Samuel Paty. Jean-Michel Blanquer a aussi demandé des minutes de silence. Il y a eu aussi des hommages un an plus tard. La nation semble rassemblée quand même derrière Samuel Paty. C'est pas
vous
votre
savez,
sentiment ?
À côté des hommages, il y a la vie quotidienne. Et dans la vie quotidienne, malheureusement, nos professeurs ne se sentent pas suffisamment protégés, tout simplement. Il y a beaucoup de violence dans les classes. Cette violence, elle est passée sous silence. Vous savez, c'est le fameux pas de vague. Mmh. Et si vous regardez les statistiques données par le ministère de l'Éducation nationale sur les atteintes à la laïcité, moi, il y a quelque chose qui m'a frappée. C'est que dans les quartiers qu'on peut intuitivement imaginer soumis à de la pression communautariste, c'est là qu'il y a le moins de signalements d'atteinte à la laïcité.
Et pourquoi ?
Et pourquoi ? Et pourquoi ?
À mon avis, c'est parce qu'il y a une forme de loi du silence. C'est-à-dire que dans un certain nombre d'écoles, dans un certain nombre de collèges et de lycées, on n'enseigne plus vraiment la Shoah. On a du mal avec l'éducation sexuelle. On s'auto-censure. D'accord. Les professeurs s'auto-censurent pour ne pas se retrouver
oui,
devant les problèmes.
En même temps, Mme Pécresse, dans votre région, en Seine-et-Marne, il y a quelques jours, il y a eu cette scène d'un élève qui a malmené, brutalisé une enseignante, une sortie de classe qui a été filmée sur les réseaux sociaux, et il y a eu condamnation immédiate. Donc le syndrome pas de vague, on peut le contester, on peut dire que ça s'est amélioré.
Mais vous savez, quand ça passe à la télévision, tout change. Et c'est ça qu'on me dit sur le terrain. Quand ça passe à la télévision...
Ou sur les réseaux sociaux.
Ou sur les réseaux Absolument. Sociaux, là, à ce moment-là, comparution immédiate. Ben, regardez le président de la République gifler, comparution immédiate, emprisonnement immédiat. Ça ne se passe pas comme ça au quotidien pour tous ceux qui se font insulter. Et c'est pour ça que moi, je demande le retour des peines planchers. Et je demande, demande l'obligation aussi de poursuivre. Parce que je me suis rendue il y a quelque temps dans un quartier sensible de Lyon où des policiers s'étaient fait agresser, classement sans suite. Dans la Drôme, un maire agressé par un habitant, classement sans suite, parole contre parole. Des exemples comme ça, on peut les multiplier. Donc on a aujourd'hui malheureusement un sentiment d'impunité très très fort et le sentiment pour des personnes qui doivent avoir autorité, les enseignants, les forces de l'ordre, les élus, les médecins, les pompiers... sentiment qu'ils sont laissés livrer à eux-mêmes. Il y a quelques mois, j'étais à Étampes, des pompiers se sont fait tirer dessus à balles réelles un 14 juillet. Voilà. Et ils m'ont dit, c'était déchirant, ils m'ont dit, ça fait des années qu'on se fait caillasser, personne ne dit rien. On se fait insulter, personne ne dit rien. Maintenant, on nous tire dessus à balles réelles. Quand est-ce que la nation va réagir ?
C'est un problème d'autorité dans les classes, c'est un problème de communautarisme. Les agressions de professeurs dont vous parliez, même en maternelle, ils sont dus à quoi ?
Il y a un vrai problème de discipline et d'autorité aujourd'hui dans les classes. Les enfants sont de moins en moins sages. Il y a des phénomènes de bandes avec des meneurs. Donc ce que je propose, c'est simple, c'est d'abord de renforcer la discipline dans les établissements. Et ce n'est pas aux enseignants à faire la discipline. Donc il faut des vraies équipes de surveillants. Moi-même, dans ma région, j'étais obligée de recruter des brigades régionales de sécurité pour sécuriser les abords des établissements face aux intrusions de bandes, hein, les bandes rivales entre quartiers.
Mais là, en l'occurrence, c'est à l'intérieur des classes.
Oui, dans la classe.
Non, mais ces brigades régionales peuvent aussi rester dans les établissements. Et quand il y a un problème dans la classe, il faut des sanctions disciplinaires. Et puis, vis-à-vis de tous ces jeunes qui enfreignent la discipline, il faut des sanctions éducatives.
Et des poursuites rapides, judiciaires.
Des sanctions éducatives. Les sanctions éducatives pour les mineurs, c'est l'équivalent des poursuites judiciaires pour les majeurs. Des sanctions éducatives très rapides. Le problème, c'est que notre justice, elle est thrombosée. Elle est complètement embolisée. L'autre jour, j'étais à Créteil avec le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, parce que la BAC de Créteil s'était fait caillasser par une bande de 40 jeunes de moins de 15 ans. Bon. Et parmi ces jeunes, il y en avait quelques-uns qui étaient très connus de la justice, mais qui n'avaient pas encore été condamnés, alors que ça faisait un an qu'ils avaient été dénoncés. On a un stock d'affaires non jugées. Et moi, je demande, puisque c'est les états généraux de la justice en ce moment, je demande qu'on fasse une opération vérité. Combien y a-t-il de mois, d'années d'affaires en stock non jugées dans les tribunaux? Et comment est-ce qu'on fait pour écluser ce stock?
C'est vous pour avez ça une idée du pourcentage? C'est quoi? On est à 20-30%?
Non, mais c'est surtout un an, deux ans de jugement pas encore passé. En matière civile, on estime que c'est deux ans à peu près. En matière pénale, ça doit être entre un et deux ans. Donc le sujet, il est simple. Il faut un plan hors sec pour la justice. Il faut y mettre le paquet. Il faut des délais impératifs de jugement. Et il faut que dans les flagrants délits, comme ça a été le cas à Comble-la-Ville, comme ça a été le cas pour le président de la République, quand il y a un flagrant délit, il faut une comparution immédiate et il faut un jugement immédiatement exécuté. Alors pour l'exécution des jugements, il faut mettre en place les peines. Les travaux d'intérêt général, 450 jours.
Stage de citoyenneté.
450 jours pour exécuter. Oui, stage de citoyenneté, j'allais dire, c'est très petit par rapport à ce qu'il faudrait faire. Pour moi, c'est tu casses, tu répares. Et par ailleurs, vous savez, il faut aussi que quand des amendes sont prononcées, elles puissent être recouvrées. Aujourd'hui, il y a l'insaisissabilité des minima sociaux. Ça veut dire que, par exemple, un dealer qui est au RSA et qui deal, qui son revenu lui vient de ses trafics, s'il est condamné à indemniser une de ses victimes, quelqu'un qui l'aurait tabassé, quelqu'un dont il aurait cassé la voiture, il va dire « Ah non, mon RSA est insaisissable ». Donc je propose la saisissabilité des minima sociaux pour les amendes.
On fait une petite pause. On se retrouve dans un instant avec vous, Valérie Pécresse. C'est le grand oral de Punchline. On va parler de pouvoir d'achat, de hausse des tarifs de l'essence. Quelle solution? On en débat dans un instant. À tout de suite.
Punchline sur Europe 1, Laurence Ferrari.
On se retrouve sur Europe 1 avec Valérie Pécresse, notre invitée exceptionnelle ce soir dans le grand oral de Punchline. Bruno Jeudy, Paris Match pour vous interviewer. Madame Pécresse, la question du pouvoir d'achat est centrale, évidemment, en ce mois d'octobre. La flambée des prix du carburant, 2 centimes par litre juste pour la semaine dernière. Quelle est la solution? Le gouvernement hésite, n'a pas trouvé encore de réponse assez rapide à un problème qui peut devenir explosif. Un chèque carburant, une baisse des taxes, quelle est votre solution?
Aujourd'hui, il y aurait des solutions déjà pour assouplir les possibilités d'aide. Je m'explique. Si une entreprise veut aider un de ses salariés qui vient de loin et en lui donnant un forfait kilométrique supplémentaire défiscalisé, elle ne peut pas le faire. C'est l'enfer bureaucratique français. On a Bercy qui fixe chaque année des grilles, des indices d'indemnité kilométrique qu'on peut donner, facultatif bien sûr, mais en fonction de la voiture, en fonction de son... Enfin, voilà, l'enfer bureaucratique. Si simplement on disait, là... ponctuellement, pendant les 3 ou 4 mois où l'essence va être très chère, on autorise les entreprises à donner un petit avantage défiscalisé à leurs salariés pour les aider, un coup de pouce, eh bien ce serait tout simple.
Donc là, on délègue aux entreprises le...
Non mais juste, on libère les énergies, ceux qui ont la possibilité de donner, donnent. Vous voyez, dans les collectivités, on pourrait le faire aussi. On n'a pas le droit de le faire. Donc vous voyez, tout ce système de l'enfer bureaucratique français qui fait que, face à une situation comme celle-là, personne n'a le droit de prendre une initiative parce que tout est verrouillé, que la loi nous en empêche, c'est très dommage. En plus, il faudrait, si on veut faire un chèque Il faudrait penser aussi à tous les tarifs réglementés. Les infirmières, par exemple, leur indemnité kilométrique, elle est forfaitaire. Donc, si on veut les aider, il va falloir libérer tout ça. En fait, comme tout est réglementé dans notre pays, on a du mal, face à ces situations, à faire des choses un petit peu librement. Voilà.
Et évidemment. Et sur, au niveau de l'État, qu'est-ce qu'on fait?
Bah, au niveau de l'État, je pense que le plus simple, c'est effectivement le chèque essence. Mais vous voyez bien dans quoi on est en train de tomber. On est à 6 mois des élections et c'est parce qu'on est à 6 mois des élections
chèque que le président énergie, de la République chèque carburant.
Fait un chèque toutes les semaines, le chèque énergie, le chèque carburant, le blocage du prix de l'électricité. Bon, avec Emmanuel Macron, on a bien compris que c'était l'addition après l'élection.
Ouais. En même temps, ok, on peut comprendre que vous contestiez l'idée du chèque. Vous seriez plus favorable à la baisse des taxes ?
Non, je ne conteste pas l'idée du chèque. Je dis qu'un chèque par semaine, ça fait beaucoup.
Oui.
Et que,
enfin, un chèque pour les policiers, vous êtes pour. Un chèque pour les agriculteurs, vous êtes pour. Bah, un chèque pour les sages-femmes, vous êtes pour ?
Oui, mais à un moment donné, il va falloir faire l'addition de tout ça. Et ce qui m'inquiète, c'est d'avoir un budget... Le Haut Conseil des Finances Publiques a refusé, pour la première fois, je crois, dans l'histoire, de se prononcer sur le budget, parce qu'il considère qu'il n'est pas sincère.
Vous dites que ce budget n'est pas sincère ?
Il est incomplet.
C'est le Haut Conseil, c'est pas la même chose. Hein.
Oui, mais enfin, incomplet et pas sincère. Incomplet, c'est une façon pudique de dire pas sincère. C'est incomplet, ça veut dire qu'on n'a pas toutes les dépenses et qu'on n'a pas toutes les recettes. Donc, ça veut dire qu'il est insincère. Donc, le budget est aujourd'hui incomplet. On ne sait pas combien l'État va dépenser. Dans une période électorale, ça ne se fait pas. J'ai été ministre du budget en 2011-2012, la dernière année du quinquennat Nicolas Sarkozy. On avait fait une loi de finances qui était impeccable parce que on le devait aux Français et on avait fermé toutes les vannes des dépenses parce qu'on était en pleine crise des dettes souveraines.
Alors justement, vous avez accusé le gouvernement d'avoir cramé la caisse, c'était votre expression.
Pas de l'avoir, de la cramer.
Parce de que la là, cramer, avis, voilà.
C'est pas fini.
On va juste écouter la réponse de Bruno Le Maire, il était ce matin l'invité d'Europe 1 chez Sonia Mabrouk.
Vous parliez de Valérie Pécresse. Elle nous dit, ils vont cramer la caisse. Bon, d'abord, je ne sais pas très bien ce que veut dire cette expression. On a protégé les Français. Si elle voulait qu'on ne protège pas les Français pendant la crise, qu'elle l'assume. Mais l'argent qui a été dépensé, comme elle dit, cramer la caisse, 16 points de dette publique en plus, c'était pour protéger les salariés, pour protéger les compétences, pour protéger les entreprises. C'est ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir un taux de chômage inférieur à celui d'avant la crise et un taux de faillite, un nombre de faillites inférieur à celui d'avant la crise. Si on appelle ça cramer la caisse, je ne suis pas d'accord.
Alors voilà, Valérie Pécresse, Bruno Le Maire. Est-ce que vous lui répondez ?
Je vois que je l'ai fâché, à juste titre. Je l'ai fâché parce que le problème, c'est qu'il ne protège pas les générations futures. Vous savez, François Bayrou, qui aujourd'hui soutient ce gouvernement, avait fait toute une campagne, il y a une dizaine d'années, pour dire « alerte à la dette ». Parce qu'une dette de 117% du PIB, plus 200 milliards de déficit, c'est des impôts différés. Quand je vous disais que l'addition serait après les élections, c'est qu'aujourd'hui, on a un gouvernement, un président qui s'occupe plus de l'élection future que de la génération future. C'est une dette que nous allons léguer à nos enfants. Cette dette, elle a augmenté de 8 000 euros par Français pendant le quinquennat. Alors oui, bien sûr, il fallait amortir la crise, c'est sûr. Mais est-ce que vous avez vu ce rapport du Conseil d'analyse économique qui dit que nous avons été 26e sur 38 pour le coût de la crise Covid. Ça veut dire qu'en réalité, nous avons dépensé plus dans cette crise que nous n'aurions dû. D'ailleurs, je pense que dans le premier confinement, on a confiné tout le pays. Si on avait régionalisé le confinement, il y aurait eu des centaines de milliers d'entreprises qui n'auraient pas fermé pendant le premier confinement.
On va faire une petite pause. On se retrouve dans un instant avec vous, Valérie Pécresse. On évoquera votre candidature au sein des Républicains. Quelle présidente seriez-vous ? Je vous pose la question dans un instant. À tout de suite.
Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari.
Et dans Punchline, notre invitée exceptionnelle, c'est Valérie Pécresse. On est toujours avec Bruno Jeudy du Paris Match. Pardon. Valérie Pécresse, demain, vous allez prendre un petit déjeuner dans la joie et la bonne humeur avec les 5 autres candidats à cette primaire, puisqu'on veut parler de primaire maintenant des Républicains. Vous avez rendez-vous avec Christian Jacob. À quoi cela rime d'avoir repris votre carte aux Républicains ? Est-ce que ça veut dire que votre mouvement libre n'a servi à rien ? C'était un feu de paille ?
À partir du moment où les Républicains me tendent la main, en acceptant que je puisse être leur candidate à la présidentielle, il était assez logique que je saisisse cette main tendue. D'autant plus que, comme vous le savez, dans cette primaire, pour voter, il faut adhérer. Donc, ça veut dire
donc que... Donc, vous étiez coincé.
Non, ça veut dire qu'aujourd'hui, toutes les personnes qui veulent voter pour moi, je leur dis, adhérez aux Républicains. Et donc, cette ligne politique qui consiste à faire des Républicains le pilier de l'alternance et de la reconquête face à Emmanuel Macron, ben cette stratégie, je me l'applique à moi-même. Il faut être cohérent. Je ne peux pas demander, à mes supporters d'adhérer pour voter avant le 15 novembre. D'ailleurs, je le dis ici ce soir, parce que beaucoup de Français croient que c'est une primaire fermée. Non, c'est une primaire où on peut adhérer si on partage les valeurs de la droite jusqu'au 15 novembre.
Combien de vos supporters justement ont adhéré depuis la semaine dernière,
puisque ça, je ne le sais pas. Pour adhérer, il faut partager les valeurs de la droite.
87 000 adhérents lundi dernier.
Il faut partager les valeurs de la droite et avoir envie de désigner le candidat de la droite. C'est une opportunité qui est offerte à tous ceux qui adhèrent.
Valérie Pécresse, c'est une primaire en vérité. Ça y est, c'est plus un congrès. On est passé, c'est une primaire. Vous pouvez me le dire.
C'est une primaire. C'est une primaire qui est qui. Oui, moi je voulais une primaire plus large. Je voulais une primaire comme celle de 2016, dans laquelle on aurait pu faire venir tous les sympathisants, y compris du centre. Parce que moi, je voulais qu'on s'élargisse le plus possible, qu'on ait le plus d'élan possible. Mais tous ceux qui réadhéreront d'ici le 16 novembre donneront de l'élan à l'alternance. Et c'est ça le message.
D'accord. Mais ça restera une élection quand même relativement fermée, puisqu'il faut adhérer aux Républicains. Est-ce que vous redoutez une élection sous influence ? Je m'explique. On sait que ce parti est encore très marqué par la présidence de Laurent Wauquiez, qui n'est pas un de vos amis. On sait qu'un certain nombre de sarkozistes ne goûtent guère le fait que vous ayez quitté le parti, tout comme d'ailleurs Xavier Bertrand, et ne vous apporteront pas leur suffrage. Est-ce que vous redoutez une élection sous influence qui, au fond, serait en quelque sorte déjà pipée, et on dit même que M. Barnier en serait finalement le favori ?
Je fais confiance aux militants, et je fais confiance à tous les adhérents, parce que je sais que ce qu'ils veulent, c'est voter pour le meilleur projet pour la France, et gagner. Ils veulent battre Emmanuel Macron, ils veulent avoir le candidat qui a l'étoffe d'être le ou la prochaine présidente de la République. Et ça, ils seront guidés par l'intérêt général. Parce que quand vous militez dans un parti politique, vous êtes d'abord guidé par l'intérêt de la France. C'est ça qui vous motive. Pourquoi adhérer à un parti sinon ?
Donc ils veulent gagner. Ils veulent désigner le candidat qui a
le meilleur projet pour la France.
Non, mais d'abord, qui a le plus de chances d'atteindre le second tour, Mme Pécresse.
Ils veulent le meilleur projet pour la France et ils veulent la meilleure personnalité pour l'incarner. C'est comme ça que François Fillon a été choisi en 2016.
Et dans les sondages d'aujourd'hui, c'est Xavier Bertrand qui est le mieux placé.
Mais en 2016, ça n'était pas non plus François Fillon qui était le mieux placé. Mais c'était celui qui avait le projet le plus complet, celui qui parlait le plus à son électorat, celui qui était le plus réformateur et celui qui remettait de l'ordre dans la rue et dans les comptes, comme dirait Édouard Philippe.
Mais c'était une primaire ouverte, ce n'était pas une primaire fermée, comme c'est le cas aujourd'hui.
Est-ce que vous ne faites pas preuve d'un peu d'angélisme ? Vous connaissez les manœuvres d'appareil, vous connaissez parfaitement le parti politique auquel vous allez réadhérer. Vous n'êtes pas un tout petit peu trop candide ?
Je suis tout sauf candide. J'ai moi-même fait la première primaire, je crois, de l'UMP à l'époque.
Ouais, c'était en
Ile-de-France. C'était en Ile-de-France en 2010. D'ailleurs, à l'époque, il y avait 75 000 adhérents à l'UMP sur la région, c'est-à-dire à peu près ce qu'il y a comme adhérents aujourd'hui des Républicains en France. Et c'était une primaire qui avait été assez rude à l'époque, parce que c'était beaucoup moins policier qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, moi, j'ai pas d'inquiétude. Je pense que nous allons faire une primaire qui sera une primaire très digne, sur le fond, avec vraiment des idées neuves. Et je pense aussi que c'est important de débusquer Emmanuel Macron. Parce qu'il y a encore trop d'électeurs de la droite qui pensent que le bilan d'Emmanuel Macron n'est pas si mauvais. En réalité, la crise Covid fait écran de fumée. Mais le bilan, il est extrêmement mauvais. On a aujourd'hui, en matière de sécurité, une impunité généralisée. En matière d'immigration, des frontières qui sont totalement poreuses. En matière d'islamisme, de l'angélisme. En matière de gestion des dépenses publiques, je vous l'ai dit, une dette colossale qui se traduira en impôts dans le prochain quinquennat, inévitablement. Et tout ça montre un président pusillanime, un président immobile, un président pour presque rien.
Valérie Pécresse, en quoi est-ce que votre candidature est une candidature de femme, au fond ?
Peut-être parce que dans mon projet, il y aura une attention particulière portée aux injustices faites aux femmes. On parlait tout à l'heure de la sécurité. Vous savez qu'un des grands sujets en matière de sécurité, c'est l'explosion des violences conjugales. Aujourd'hui en Espagne, il y a une procédure judiciaire spécifique pour prévenir les féminicides. En 72 heures, on instruit. En 15 jours, on juge. Eh bien, moi, je le ferai, si je suis présidente de la République, de la même façon, pour protéger les femmes et éviter ces féminicides. Ça fait des années qu'on en parle, on ne fait rien. De la même façon, on parle de pouvoir d'achat. Je viens de me rendre compte qu'il y avait une immense injustice faite aux femmes au moment des séparations. Vous connaissez le principe de la pension alimentaire. À 93%, elle est payée par l'homme, le père, pour subvenir aux besoins de l'enfant. Le père défiscalise la pension alimentaire qu'il verse à sa compagne, à son ex-compagne. La compagne, la mère, elle, ne peut pas fiscalise la pension alimentaire du père. Ça veut dire qu'elle peut perdre des allocations logement, elle peut perdre sa prime d'activité, elle peut passer dans une tranche d'impôt supérieure. Alors que quand les deux étaient en couple, cet argent, évidemment, ne faisait pas l'objet d'une fiscalité. Donc vous vous rendez compte qu'on a une fiscalité en matière de séparation qui pénalise totalement la mère. Moi, je défiscaliserai les pensions alimentaires pour permettre aux femmes de pouvoir subvenir aux besoins de leurs enfants sans avoir à considérer ça comme un revenu. Et j'ajoute que c'est extrêmement pénalisant pour tous les couples séparés parce qu'aujourd'hui, on le sait bien, le coût de la vie pour un couple séparé est bien plus important. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses dans la société française. Je ne reviendrai pas sur les inégalités salariales, mais il y a beaucoup de lois qui ont été votées par les hommes, pour les hommes.
Valérie Pécresse, je voudrais revenir sur la politique. Vous avez parfaitement décrit le poids déclinant de votre formation politique, hein, avec les adhérents en Ile-de-France il y a 10 ans et les adhérents sur toute la France aujourd'hui. Il y a quelqu'un, Éric Zemmour, qui est en train de mordre sur votre électorat. Quand je regarde les enquêtes d'opinion, on voit qu'une partie des électeurs fionnistes que vous connaissez bien, vous avez été suffisamment proche de l'ancien Premier ministre, qui se disent tentés, aujourd'hui ça ne se voit pas forcément complètement dans tous les sondages, mais qui se disent tentés par Éric Zemmour, qu'on a du mal à classer entre l'extrême droite et une frange droitière des Républicains. Qu'est-ce que vous dites à ces électeurs qui aujourd'hui sont plus tentés par Éric Zemmour que par Valérie Pécresse, Xavier Bertrand ou d'autres ?
Je leur dis, la droite a perdu un mois à mettre au point son processus de sélection. Aujourd'hui, un vrai débat commence sur le fond, sur les projets. Parlons d'immigration, puisqu'il paraît que c'est un grand thème d'Éric Zemmour ou de Marine Le Pen. Il propose l'immigration zéro. C'est totalement impossible. Personne ne le fera jamais. C'est pas crédible. Donc, qu'est-ce qui est crédible ? La proposition de loi constitutionnelle que j'ai écrite et mise sur la table, que tous les Français peuvent aujourd'hui consulter.
Des quotas.
Cette proposition constitutionnelle, c'est le système à la canadienne ou à l'américaine, où on choisit les étrangers qu'on accueille, avec une stratégie de quotas démocratiquement votée par le Parlement chaque année, qui donne la limite des titres de séjour qu'on délivrera aux étudiants, à l'immigration familiale et à l'immigration de travail. Et une fois qu'on les a atteints, on arrête tout, c'est terminé. Et ça permet de reprendre complètement le contrôle de l'immigration aujourd'hui. Ça permet aussi de choisir les pays, ça permet de choisir les zones géographiques et ça permet de faire un donnant-donnant en renégociant tous les accords migratoires avec les pays d'origine, Maghreb, Afrique subsaharienne, en leur disant oui au visa contre des laissez-passer pour que les clandestins qu'on trouve chez nous rentrent chez eux. Donc ça permet de se faire à nouveau respecter. Et cette loi constitutionnelle, dedans, j'ai mis aussi l'impossibilité de toucher des prestations sociales quand on vient en France si on n'a pas 5 ans de résidence régulière en France. Parce que quand on vient en France, c'est pour s'intégrer et travailler. C'est pas pour toucher des allocations. Et on le sait bien, nous sommes l'un des pays les plus généreux d'Europe et c'est pour ça aussi que nous sommes une passoire migratoire. Et enfin, conditions pour délivrer les titres de séjour, la maîtrise de la langue française. Parce qu'il est absolument incroyable qu'en Allemagne, il fasse passer un examen d'allemand.
Ça fait des années qu'on l'entend, Mme Pécresse.
Combien d'heures de français ?
Ça fait des années qu'on l'entend, mais ça n'est pas appliqué, ça n'a jamais été appliqué.
Mais parce qu'on le fait à la latine.
La droite l'a promis entre 2007 et 2012. Ça a été dans les programmes de peu près tous les candidats. Et
mais on a perdu les élections,
monsieur Zemmour.
Donc comme on a perdu les élections, on n'a pas pu le
mettre en place en 2007.
Oui, mais on n'a pas pu le mettre en place en 2012 et on n'a pas pu le mettre en place en 2017. Maintenant, moi, ma loi, elle est sur la table. Et pour l'instant, vous le savez bien, on l'a fait à la latine. À la latine, les Allemands, ils l'ont fait à l'allemande. L'allemande, c'est 600 heures d'allemand, un examen, et si vous ratez l'examen, pas de titre de séjour.
Vous faites la même chose.
Nous, on fait la même chose. Au lieu de faire à la française, 100 heures de cours de français où il faut juste prouver qu'on est allé au cours. Et c'est la même chose pour les étudiants. Si vos enfants veulent aller étudier en Angleterre, ils doivent réussir le TOEIC ou le TOEFL avec un certain niveau. Ce sera pareil pour les étudiants qu'on accueille en France. Vous savez que quand j'étais ministre, j'ai démantelé des faux réseaux d'étudiants qui venaient s'inscrire et qui ne parlaient pas le français. Donc il faut qu'on soit ferme. Et ce n'est pas, c'est pas démagogique, ce n'est pas extrême de dire ça, c'est juste faire respecter la France.
Allez, on fait une petite pause. On se retrouve dans un instant avec vous, Valérie Pécresse. On parlera d'Éric Zemmour et du Parti Les Républicains. Y a-t-il un risque d'effacement des Républicains? Vous nous répondez dans un instant. À tout de suite.
18h-20h sur Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari.
Avec Valérie Pécresse qui est notre invitée exceptionnelle ce soir. Valérie Pécresse, Éric Zemmour est-il un adversaire politique pour vous ou pas?
Avec Éric Zemmour, nous ne partageons ni la même stratégie, ni les mêmes valeurs. Il considère qu'il peut s'allier avec l'extrême droite. Moi, je considère...
Avec la droite aussi, hein?
Oui, mais avec l'extrême droite. Il considère qu'il peut s'allier avec l'extrême droite. Moi, j'ai construit toute ma carrière politique, tout mon engagement politique contre l'extrême droite. Je suis une gaulliste sincère. Et le général de Gaulle a construit tout son engagement contre cette extrême droite. D'ailleurs, le programme de Madame Le Pen amènerait la France à la faillite et au chaos. Donc à partir de ce moment-là, je ne peux dire qu'une seule chose, c'est que Éric Zemmour est l'allié objectif de l'extrême droite. Et ce ne sera évidemment pas mon cas. Mais ce que je pense surtout, c'est que c'est la droite qui a les bonnes solutions pour le pays. Parce qu'il ne faut pas parler seulement de diagnostic. Dans le diagnostic d'Éric Zemmour, il y a des tas de choses que je partage. J'ai été l'une des premières à dire qu'il y avait des zones de non-France dans notre pays, à appeler à un plan banlieue, à saisir Emmanuel Macron en lui disant qu'il fallait éradiquer les ghettos, à dire qu'on n'était pas suffisamment armé contre l'islamisme. Donc sur ces sujets-là, sur le diagnostic, il y a des points de convergence. Mais en revanche, sur les solutions, les seules solutions crédibles, ce sont les nôtres.
Mais est-ce qu'Éric Zemmour n'est pas en train de réaliser, parce que c'est vrai que vous connaissez bien forcément l'histoire des droites, Jacques Chirac qui s'oppose aux alliances avec Jean-Marie Le Pen, mais est-ce qu'Éric Zemmour n'est pas en train de dépasser finalement cette période et de réussir, ou en tous les cas de cheminer vers l'union des droites par la base?
J'ai plutôt
Et pas par les dirigeants, et pas par les chefs de parti, et pas par les parlementaires.
J'ai plutôt l'impression que le mystérie de la division, désormais, il est à l'extrême droite. Parce qu'aujourd'hui, les bisbilles sont entre eux. Alors que la droite a enfin trouvé un chemin pour départager ses candidats et surtout va enfin s'adresser aux Français en direct pour parler projet. Et quand les Français nous auront entendus sur comment, effectivement, on remet de l'ordre dans les comptes et comment on remet de l'ordre dans le pays... Je pense que la crédibilité sera chez nous. Les Français se trompent rarement d'élection. Vous l'avez vu aux dernières régionales, dans les sondages, toujours les mêmes. Le Front National était donné vainqueur dans pas mal de régions, dans le Grand Est, dans la région Sud, à touche-touche en région Normandie. Et finalement, les résultats ont été en faveur de ceux
Ça, mais avec un taux d'abstention record. Ça n'a pas pu ne pas vous échapper.
Il n'est pas exclu que nous ayons aussi un taux d'abstention record à cette élection présidentielle. Parce que quand on voit aujourd'hui l'offre politique, on se rend compte qu'il y a un certain nombre de Français qui se détournent de nous. Donc il va falloir faire nos preuves. Il va falloir aller les chercher. Il va falloir leur dire que toutes les réformes que la droite a promis de faire, elle va les faire. Moi, c'est mon credo. Je ferai la réforme de l'assurance chômage, je ferai la réforme des retraites, je ferai la réforme de l'État, je supprimerai 150 000 postes dans l'administration administrante, je débureaucratiserai vraiment. C'est-à-dire, tout ce qu'on a promis, je le ferai. Alors, vous allez me dire, c'est bien joli, vous dites que vous allez le faire, mais pourquoi vous le ferez? Parce que, dans ma région, je l'ai fait.
Mais vous faites le même diagnostic.
J'ai fait 2 milliards d'euros d'économies et je les ai remis dans mes priorités.
Quand vous dites le Rassemblement National n'a pas pu l'emporter au régional et il a été balayé, c'est vrai qu'il a fait des scores plutôt très en dessous de ce qu'il réalisait en 2015. 6 régions en tête en 2015, une seule en 2021. Mais c'est exactement le diagnostic que fait Éric Zemmour qui dit Marine Le Pen ne peut pas gagner, donc moi je vais pouvoir y arriver parce que je vais faire l'union des droites par la base.
J'attends les propositions, les solutions aux problèmes portés par Éric Zemmour. Moi, aujourd'hui, j'amène les miennes. Quand je vois que l'école périclite, j'apporte des solutions. Je dis, dès le primaire, on va remettre 2 heures de français, 1 heure de maths, on va mettre le paquet sur les fondamentaux. On ne se satisfera pas du fait que 125 000 mômes sortent du système scolaire sans savoir lire. On ne se satisfera plus du fait qu'on est les derniers en maths de l'Europe. Nous, le grand pays des mathématiques, et on mettra un examen en sixième. Et si cet examen, on le réussit, On fera tout pour que les jeunes le réussissent. Et si on le rate, on rentre en sixième de consolidation parce que le collège unique aujourd'hui est en faillite, parce qu'il y a des décrocheurs qui commencent à décrocher dès la sixième. Et je mettrai en place une réserve éducative nationale avec des professeurs retraités de façon à ce qu'on puisse donner des cours de soutien gratuits à tous ces élèves parce que tous les enfants de France doivent avoir leur chance de réussir. Et ce sursaut national pour l'école...
Le doublement des écoles, c'est, des classes, c'est pas suffisant ?
C'est que dans certaines zones, c'est pas suffisant. Ça, c'est une des bonnes choses du gouvernement Macron. Mais ce doublement des classes dans les zones prioritaires ne suffit absolument pas. Aujourd'hui, on a des décrocheurs adolescents qui vont tenir les murs, qui ensuite deviennent des élèves souvent très perturbateurs. Et ces jeunes, on n'en fait rien. Moi, je demande qu'on puisse les détecter immédiatement et qu'on confie aux régions le soin de les réorienter dans des écoles de la deuxième chance, dans des centres de formation en apprentissage. Et je demande que l'apprentissage soit totalement défiscalisé dans les entreprises de moins de 10 salariés pour que les entreprises puissent venir aussi à notre secours pour ce projet de nation éducative que je veux porter. Voilà quelques idées. Et je veux mettre fin au bizutage institutionnel qui consiste à envoyer les plus jeunes profs dans les quartiers les plus difficiles et qui conduit à tarir les vocations d'enseignants aujourd'hui. Je ferai... Des écoles publiques sous contrat avec tout le monde qui sera sous contrat. L'école sera sous contrat avec l'État, donc pourra faire de la pédagogie innovante. Les professeurs seront sous contrat, les élèves seront sous contrat et on les mettra dans les quartiers, les territoires ruraux, dans les quartiers populaires pour avoir la meilleure qualité d'enseignement dans ces territoires. C'est les charter schools suédoises ou britanniques, ça marche très bien.
J'aimerais juste qu'on écoute Éric Zemmour, sa position sur l'école, je vais vous faire réagir après.
Certaines mesures sont simples et relèvent du bon sens. D'abord, suspendre les aides sociales pour les familles des élèves qui perturbent gravement les classes. Restaurer la fonction du proviseur, chargé normalement de faire respecter l'ordre dans l'établissement et qui ne le fait plus. Rétablir une sélection plus stricte des enseignants et remettre avant tout la transmission des savoirs au cœur de l'école.
Valérie Pécresse, il n'y a pas un mot que vous retirez ?
Bon, si, d'abord sur les enseignants, le sujet, c'est pas d'augmenter la sélectivité, le sujet, c'est d'augmenter l'attractivité du métier. C'est ce que j'ai dit, je propose la régionalisation des concours de recrutement au CAPES pour qu'on soit pas envoyé bien loin de sa région de cœur dans des quartiers justement prioritaire où on se retrouve avec les classes les plus difficiles et je propose une vraie revalorisation des salaires avec des bonus quand on va dans des quartiers plus difficiles à la fois salariaux et d'ancienneté. Donc à un moment donné, il faudra attirer les meilleurs vers les professions d'enseignants et pas uniquement dire il y a qu'à Faucon, on va augmenter la sélectivité du concours. Aujourd'hui, on a 30% de moins de candidats au CAPES en maths qu'il y a 10 ans. Donc si vous augmentez
avec une note, il faut augmenter le salaire des profs.
Non, je dis pas qu'il faut doubler le salaire des profs parce que je ne suis pas démagogue. Je dis au contraire que partout où c'est difficile, il faut que ce soit pris en compte. Partout où les professeurs ont plus de mal, il faut qu'on soit à leur côté. C'est une évidence pour moi. Et par ailleurs, c'est pas des vraies propositions, ce que fait Éric Zemmour, rien n'est concret là-dedans. Rien n'est concret là-dedans.
Votre adversaire, c'est Emmanuel Macron. Il est déjà en pré-campagne.
Il faut vraiment aller débusquer Emmanuel Macron. C'est un président qui a échoué, que nous avons en face de nous. C'est un président qui avait promis de réformer le pays. Il n'a fait aucune des grandes réformes qu'il avait dit qu'il ferait, ni l'assurance chômage, ni les retraites, ni les 120 000 suppressions de postes. Il n'a pas créé les 15 000 places de prison.
Il y a quand même une réforme qui se met en place ce mois-ci.
L'assurance chômage.
Le tout début, puisqu'on a bien compris que la suite, ce sera bien après l'élection, et ça n'est qu'un premier pas. Il faut instaurer la dégressivité. Moi, je fais un donnant-donnant.
Ça a été reporté à cause de la crise sanitaire, l'assurance chômage.
La crise sanitaire permet effectivement à Emmanuel Macron de dire que tout ce qu'il n'a pas fait, c'est à cause de la crise sanitaire.
C'est un peu juste pour vous ?
Attendez, la crise sanitaire n'empêche pas de rétablir la sécurité, la justice, de mettre en place des vraies règles migratoires, de renvoyer les clandestins chez eux. Non, la crise migratoire a bon dos.
Donc c'est lui votre adversaire aujourd'hui ? C'est Emmanuel Macron ?
C'est lui que je veux remplacer, oui.
Ce n'est pas Xavier Bertrand ?
Ah non, moi je n'ai pas d'adversaire dans ma famille politique. Dans ma famille politique, il y a d'autres prétendants au titre. Et c'est les militants, les adhérents qui décideront.
Bon jeudi.
Justement, vous allez devoir quand même affronter Xavier Bertrand, Michel Barnier, Éric Ciotti, peut-être Philippe Juvin. C'est quoi, en un mot, votre plus-value par rapport à Xavier Bertrand, qui a été ministre comme vous dans le même gouvernement, ou Michel Barnier, qui a été ministre comme vous dans le même gouvernement, et au fond, vous êtes quand même pas très loin les uns des autres?
Sans doute mon expérience. Vous savez que j'ai tenu face à la rue pendant 9 mois dans une des réformes les plus compliquées, les plus périlleuses du quinquennat de Nicolas Sarkozy, celle des universités, et que c'est les manifestants qui ont reculé. Et par ailleurs, au-delà de cette expérience de la réforme, j'ai effectivement géré le budget de l'État en pleine crise des dettes souveraines et j'ai fait la plus forte baisse des dépenses de l'État des 10 dernières années. Donc j'ai une vraie expérience et dans ma région, je suis confrontée à la région la plus criminogène, la plus en risque de séparatisme, la plus en risque de terrorisme.
Mais les militants LR, qu'est-ce que vous leur dites? Vous regrettez d'avoir quitté la famille?
Je leur réponds aujourd'hui, choisissez-moi parce que j'ai les réponses aux problèmes du pays.
Merci Valérie Pécresse d'être venue ce soir dans Punchline, d'avoir inauguré cette formule du Grand Oral. Merci à vous. Demain, c'est Éric Ciotti qui sera à votre place, qui répondra à nos questions. Bonne soirée à vous sur Europe 1. Tout de suite, c'est Mouloud Achour pour Verveine Underground. Et on se retrouve demain à 18h pour Punchline. Bonne soirée.